Bonus.
Trax.
Bienvenue dans ce deuxième numéro de Scriptment. Je m'appelle David et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de l'adaptation de Spider-Man voulue par Madame Golan qui aurait pu se résumer à peu de choses près à ceci.
Salut, moi c'est Peter Parker. Je suis un garçon tout à fait normal. Il m'est arrivé une drôle de chose dernièrement. J'ai été mordu par une araignée et j'ai développé des pouvoirs. Maintenant, j'essaie d'arrêter les agissements de mon ancien prof qui rêve d'éradiquer toute vie humaine. Problème, c'est que je suis convaincu d'agir et d'être acteur de ma vie. Mais en réalité, je me fais plutôt baloter par les événements. Voilà, je suis Spider-Man, et je suis peut-être pas sa version la plus originale.
Alors oui, ce n'était pas sa version la plus originale. Et malgré quelques bonnes idées, ce scénario était plombé par un certain nombre de problèmes. On y trouvait des incohérences, des facilités scénaristiques, ainsi que des personnages pour le moins clichés.
Je fais pas grand-chose dans l'histoire, hein. Je suis la caution demoiselle en détresse, et ben j'aurais bien des occasions d'être en détresse. On me pourchassera, on me fera tomber d'une tour en construction. J'aurai même droit à une conversation un peu louche avec un de mes profs, hein, dégueu. Bon, bah, j'aurai quand même droit à un petit moment de bravoure. Mais dans le fond, ma seule activité sera de faire ça. Peter, Peter, t'es où ? Ah putain, j'en peux plus. Non mais c'est ça, je me réduirai à prendre des risques inconsidérés pour chercher un garçon qui est trop nigo pour voir que j'ai des sentiments pour lui, quoi.
Bon, si Constance propose une meilleure version de Lisa Lane que la Lisa Lane du script, en lui donnant un recul critique qui lui faisait cruellement défaut, maintenant, il est temps de savoir comment James Cameron, de son côté, s'en sort avec le mythe de Spider-Man. Car souvenez-vous, il avait décidé d'abandonner ce fameux script de Menahem Golan pour créer sa propre version du super-héros. Mais avant que je vous résume son scénario, il faut que je vous parle de comment le réalisateur de Terminator s'est retrouvé avec le projet d'adapter Spider-Man entre les mains. Tout a commencé par un déjeuner entre Stan Lee, Chris Claremont, le scénariste mythique des X-Men, Kathryn Bigelow et bien évidemment James Cameron. L'idée de cette rencontre, selon les dires de Claremont, était de proposer à Kathryn Bigelow un film qui aurait été produit par James Cameron et qui aurait adapté les X-Men. Ok, là je vous laisse quelques secondes pour encaisser la nouvelle, car moi quand je l'ai découvert, ça m'a fait un choc. Car oui, peut-être que dans un monde parallèle, il existe un film X-Men réalisé par Kathryn Bigelow. Et là, j'en suis à me demander si on n'est pas du mauvais côté de la réalité. Mais bon, il faut avancer, c'est comme ça. Donc, au cours de cette rencontre, alors qu'ils sont en train de discuter de scénarios possibles pour cette adaptation débutant, Stan Lee glisse alors à Cameron qu'il a appris que le réalisateur de Terminator aimait beaucoup Spider-Man. Effectivement, James Cameron avait déjà dit qu'il était un grand fan de comics Marvel. À l'âge de 12 ans, son rêve était même de devenir illustrateur de comics. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, il avait ainsi révélé que pendant son enfance, il passait des heures à reproduire les pages de Hulk, Spider-Man et ainsi de suite. C'est d'ailleurs ainsi qu'il dit avoir appris à dessiner. Dans une autre interview, parue cette fois-ci chez Collider, James Cameron avait expliqué qu'en plus, Spider-Man avait une place toute particulière pour le gamin qu'il avait été. À ses yeux, il y avait Spider-Man tout au-dessus, et puis il y avait les autres super-héros. Donc, la question de Stan Lee ne pouvait qu'attiser l'intérêt du réalisateur. Et c'est donc ainsi qu'est né le projet du film Spider-Man porté par James Cameron pour le plus grand plaisir de Stan Lee. D'ailleurs, celui-ci a déclaré par la suite qu'il n'y avait pas de doute, James Cameron, était la meilleure personne sur Terre pour faire un film Spider-Man. Il voulait le faire et bien évidemment, lui voulait absolument qu'il le fasse. Alors, comme je vous l'ai raconté dans le premier épisode, James Cameron et la Carolco donc mettent en chantier la production de cette adaptation. Après avoir esquivé le scénario de Menahem Golan, et vous verrez que ça va vite le revenir bientôt dans la tête, James Cameron rédige alors un scriptment de 57 pages qu'il finalise le 3 août 1993, c'est-à-dire à la date du premier jour de tournage de True Lies. Et là, c'est le moment de faire une petite aparté pour vous donner une définition de scriptment, ou scriptment, parce que moi je ne suis pas encore décidé sur la manière dont on doit le prononcer, mais bon. Donc un scriptment est une contraction entre le mot script et treatment, ou traitement. Le script étant le scénario et le traitement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un document de travail qui permet de présenter l'idée d'histoire d'un film. Vu qu'il est plus court qu'un scénario, il permet au scénariste de tester, de travailler son histoire, mais aussi de le présenter au directeur de studio et au producteur qui serait susceptible de le financer pour en faire un film. Le scriptment, quant à lui, serait une invention de James Cameron. Il l'aurait utilisé pour la première fois pour Spider-Man. Le scriptment est généralement plus long que le traitement, car il inclut des scènes de dialogue, tout en étant moins codifié que le scénario qui, lui, est structuré en scène. Donc maintenant que je vous ai donné la définition de scriptment, il est temps que je vous parle de ce qu'en a pensé Stan Lee, après qu'il ait découvert l'histoire imaginée par James Cameron. Eh bien, il l'a trouvée tout simplement géniale, brillante même. Il a même dit, dans une interview, ce que Jim a réussi à faire avec Spider-Man est exactement comme Spider-Man devrait être. Et pourtant, tout y semble frais et différent, comme quelque chose que l'on n'avait jamais vu jusque-là. Sur le coup, vous allez découvrir que Stan Lee a tout à fait raison. James Cameron prend certaines libertés avec la mythologie de l'araignée. Malgré tout, il arrive à conserver quelque chose de l'essence profonde du personnage. Pour expliquer un peu la vision du réalisateur, voilà ce que disait James Cameron pendant la promotion de True Lies, alors qu'il pensait encore réaliser le film Spider-Man. J'ai fait une origin story, mais je vais bien au-delà, en me plongeant dans l'angoisse adolescente. Il ajoute que l'on retrouvera bien sûr tous les éléments propres à ce héros, comme sa toile et tout le reste, mais son histoire sera aussi profondément philosophique. Avec ces déclarations, on voit bien que l'ambition de James Cameron sur ce projet est certaine. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre opinion, car il est temps que je vous résume ce scénario de Spider-Man. Le script démarre sur un motif de toile d'araignée qui remplit l'écran, puis la caméra prend peu à peu de la distance, et une ombre à forme humaine commence à se découper maintenant dans la nuit. Bon, vous avez deviné que cette ombre, c'est Spider-Man. On le découvre suspendu, à l'envers, au-dessus du vide. Il s'adresse aux spectateurs en leur souhaitant la bienvenue. Il les accueille dans son endroit préféré, au sommet du World Trade Center, dans un lieu qu'il trouve paisible, loin du chaos de la rue. Dans ce script, Spider-Man va intervenir quelques fois, avec des monologues où il brise le quatrième mur. Dès le départ, James Cameron nous dépeint un personnage plein d'humour et de dérision. Et à travers ce premier dialogue léger, il glisse une réplique où il montre qu'il est un spectateur particulier d'un monde qui échappe un tout petit peu quand même à sa compréhension d'adolescent. Mais là, il est temps de quitter les hauteurs de New York avec une petite ellipse temporelle, car la tante May appelle déjà Peter. Mais avant de la rejoindre, prenons un tout petit moment pour nous attarder sur le jeune garçon. Il se trouve en ce moment même dans une salle de bain. Devant un miroir, il contemple son reflet. Il y voit un intello, un nerd quoi. Mais il se moque bien de l'image qu'il renvoie. Il emmerde même tous ceux qui seraient susceptibles de le qualifier ainsi. Et il est comme ça. Mais tout ça ne nous dit pas qui aurait pu prêter ses traits à ce nerd un peu vénère que l'on vient de découvrir. Le premier nom qui apparaît est celui de Leonardo DiCaprio. Pour remettre sa carrière en perspective, il n'était pas encore au sommet de sa gloire. Il sortait tout juste de Roméo et Juliette. La Léomania naîtra un tout petit peu plus tard, avec le succès de Titanic. Mais revenons sur le rôle de Peter Parker. Le comédien a révélé dans une interview donnée au site Shortlist qu'il avait été effectivement approché pour le tenir. Mais comme pour celui d'Anakin Skywalker dans la prélogie, il l'avait décliné car il ne se sentait pas prêt pour jouer dans ce genre de film. Parmi les autres acteurs qui auraient pu revêtir le costume de l'araignée, on trouve aussi Edward Furlong. James Cameron avait été impressionné par sa prestation dans Terminator 2 et la rumeur bruissait qu'il était en bonne position pour obtenir le rôle. Surtout que son âge, à l'époque, correspondait à celui du personnage, ce qui était une des conditions nécessaires pour l'incarner selon le réalisateur. Mais revenons maintenant au script, car avec cette première entrée en matière, James Cameron ne nous montre pas un garçon mal dans sa peau, comme on pourrait s'y attendre. De prime abord, il a plutôt l'air d'assumer pleinement d'être ce qu'il est. Mais très vite, le réalisateur va nuancer cette version cool du nerd que Peter voudrait laisser transparaître, en nous donnant à découvrir un personnage plus complexe. Ainsi, on peut lire que si Peter porte son isolement comme une décoration, avec une attitude de supériorité, il est en fait terriblement timide et désespérément seul et malheureux. Tel qu'il est décrit dans les premières pages, les activités sociales de Peter semblent aussi se résumer à être méprisé et à mépriser en retour. Par exemple, Peter précise qu'il se moque bien des sportifs qu'il considère à peu de choses près comme une tribu d'abrutis bon qu'à se rentrer dedans. Quant aux filles, là, c'est un autre problème. Il est tout simplement incapable de leur parler, rien leur dire. D'ailleurs, James Cameron insiste sur le fait que Peter soit puceau et sexuellement refoulé, et qu'il est même susceptible de le rester. Bah, vous allez entendre que ce n'est pas le cas, mais ça, je vais vous le raconter plus tard. Autre détail important dans la description de Peter, James Cameron évoque que notre héros ne connaît rien à la nature humaine, malgré sa grande intelligence. Comme vous allez le découvrir, ce détail va se révéler comme un des moteurs majeurs de l'intrigue. Dans ses premières pages, le réalisateur travaille la psychologie de Peter Parker, avec une certaine minutie, faut l'avouer. On devine tout de suite les ambivalences du personnage et l'on comprend les failles qui bouleversent son paysage intérieur. On y lit par exemple tout un paragraphe sur le sentiment de culpabilité qu'il étreint toujours suite à la mort de ses parents lorsqu'il était enfant. Les deux personnes qui l'ont élevé sont bien évidemment l'oncle Ben et la tante May, que Peter vient de croiser dans la cuisine. Ils nous sont présentés en peu de mots. Ils sont décrits comme des personnes très gentilles, même si le script insiste sur le fait qu'ils soient aussi bien trop vieux pour servir de modèle parental. Mais Peter les aime, même s'il ne prend jamais le temps de leur dire. Mais il est déjà temps de les laisser, car Peter s'apprête à se rendre au lycée. Ce lieu va être pour nous l'occasion de rencontrer les autres personnages qui gravitent autour de Peter. Et pour le coup, ils sont pas très très nombreux. Il est bien noté qu'il a un groupe d'amis, des inadaptés sociaux. Là, je fais des guillemets avec les doigts, mais c'est pas très visible à l'audio. Eh bien, comme son groupe d'amis, parce que au final, ils vont apparaître que l'instant d'une phrase. Cette phrase, voilà, c'est fini. Hop, disparu les amis. Et puis, dans l'eau, il y a aussi Mary Jane, dont Peter est secrètement amoureux. Malheureusement pour lui, elle n'a aucune idée de ses sentiments. Faut dire qu'ils semblent appartenir tous deux à deux mondes distincts. Mary Jane est une fille qui a tout pour elle. La beauté, l'argent et même un petit ami tout aussi populaire qu'elle. La chance. L'heureux élu s'appelle Nathan McCreary. Alors, ne cherchez pas dans votre encyclopédie Spider-Man pour trouver ce nom, car c'est une création de James Cameron. Par contre, le personnage, lui, vous le connaissez bien. Car dans le scénario, il répond aussi au nom de Flash. Et oui, comme Flash Thompson. Et d'ailleurs, comme Flash Thompson, il est un athlète de haut niveau. Bon, bref, c'est Flash Thompson avec un autre nom. Voilà. Peter, il le déteste. Et pas seulement parce qu'il est le petit ami de Mary Jane, mais aussi parce qu'il lui renvoie en plein visage le fossé social qui les sépare. Et McCreary, de son côté, n'oublie jamais de le lui rappeler. Contrairement à lui, Peter ne vient pas d'une famille aisée. Sa tante et son oncle n'ont tout simplement pas d'argent. Ils habitent dans une maison modeste dans la banlieue de Flushing, une zone défavorisée de New York. Mais trêve de considération sociale et revenons sur la relation entre Mary Jane et Peter, qui était jusque-là à sens unique. Mais celle-ci va prendre un tournant lorsque leur professeur de sciences va leur dire de former un binôme pour un devoir de science. À la grande surprise de Peter, Mary Jane va décider de se mettre avec lui. Ouais. La raison est bien simple, MJ a besoin d'un A à son devoir. Sinon, elle ne sera pas diplômée avec un B minimum. Et comme elle désire la voiture que ses parents lui ont promis, elle décide de former donc un groupe avec notre héros, l'intello de service. Évidemment, toutes ces considérations échappent à Peter, qui se trouve bien content et un peu tout chose aussi de se trouver auprès de MJ. Et surtout qu'il trouve qu'elle sent très bon. C'est dans le script. Mais lorsqu'il accompagne Mary Jane sur le parking, Flash vient s'interposer avec sa Porsche. La jeune fille se glisse à l'intérieur du véhicule et décide d'inviter notre héros chez Flash pour jouer au tennis et nager dans sa piscine. Évidemment, c'est une considération, c'est gentil, mais en vérité, c'est plein de condescendance. Bien évidemment, Peter refuse. Il prétexte qu'il doit se rendre à un séminaire scientifique. Mais l'une des autres raisons, c'est qu'il ne veut pas exposer son corps chétif aux yeux de MJ. McCreary, lui, de son côté, en profite pour balancer quelques piques et remarques désobligeantes à Peter, qui finit par s'éloigner complètement humilié. Comme il l'a annoncé à Mary Jane, Peter se rend bien dans une université pour visiter un laboratoire de génétique. Ah oui, là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez que c'est là que Peter Parker va acquérir ses pouvoirs. Le laboratoire en question travaille sur des méthodes pour recoder le génome de drosophiles. Oui, vous avez bien entendu, c'est des drosophiles. C'est-à-dire des mouches, quoi. Bon, alors, évidemment, dès qu'on parle de mouches dans un film, ça nous fait forcément penser à ça.
Une mouche est entrée avec moi dans le télépod transmetteur la première fois où je me suis téléporté.
Alors non, rassurez-vous, Cameron n'écrit pas un remake déguisé de la mouche de David Cronenberg. Ça, c'est la canon qu'a voulu faire avec Toby Hooper. Souvenez-vous, je vous l'avais raconté dans le premier épisode. Non, dans le scénario, la cause de la métamorphose de Peter Parker est beaucoup plus classique. Voilà comment ça s'est passé. Peter est donc en train de visiter ce laboratoire lorsqu'il fait remarquer que sur les 10 mouches d'expérience qu'on leur présente, il en manque une. Bon, le spectateur qui pourrait se demander où elle se trouve ne va pas la chercher très longtemps, car il est indiqué que la caméra se déplace et nous montre une araignée qui se délecte de la mouche manquante au bon goût de mutagène. Peter, de son côté, ne se doutant pas de la menace qui pèse sur lui, décide de prendre quelques photos pour le journal de l'école. Notre araignée, quant à elle, repue, descend vers la main du jeune garçon et toute mandibule d'or finit par le mordre. Et là, Peter écrase l'araignée et part l'air de rien, comme si rien ne s'était passé. Les effets de la morsure arriveront plus tard, au moment où il rentre chez lui, avec sa main gonflée et sa vision qui commence à devenir floue, il se traîne alors jusqu'à son lit après avoir retiré ses vêtements. On arrive maintenant à l'une des scènes les plus étranges du script. La morsure va faire délirer Peter. Pris de tremblements compulsifs, un abîme de vision ténébreuse s'ouvre alors sous lui. Il plonge alors dans un maelstrom d'hallucinations qui devait ressembler, selon James Cameron, à une vision d'horreur organique tout droit sortie de l'esprit de David Lynch. Passant d'images de toiles d'araignées aux visions d'une proie se débattant pour sa vie, puis à des images de toits, de bâtiments et de clôtures, jusqu'à ce que Peter se réveille en sous-vêtements au sommet d'une tour à haute tension à plus de 20 mètres de haut. Là, presque nu comme un ver, il est obligé de se faufiler entre les buissons pour retourner chez lui. De retour dans la salle de bain, il admire son reflet. Il constate qu'il a l'air normal. Ses mains ne tremblent même plus, mais une chose quand même le brûle dans le creux du poignet sans qu'il sache vraiment pourquoi. Il remarque aussi une autre chose étrange. Sa myopie, elle semble guérie. Il enfile ses lunettes pour vérifier. Mais non, le poison dans ses veines a dû soigner ses yeux. Éreinté par cette journée étrange, il décide d'aller se coucher. Cette fois-ci, pas de cauchemar à l'horizon, juste un rêve raffiné d'un ballet de toiles d'araignée. Peter est plutôt soulagé par cette nuit. Et lorsqu'il soulève le drap de son lit, il découvre qu'il est recouvert d'une masse blanche, collante. Oui, il a l'air d'avoir fait un rêve humide. Mais celui-ci est nature filandreuse. Il découvre que de ses poignets suinte un liquide blanc et nacré qui s'étale en des fils gluants, le collant à sa literie. Il palpe ses avant-bras et voit apparaître une forme sombre, de la taille et de la couleur d'une épine de rose, qui émerge de sa peau et qui lui projette un fil de soie dans le visage. Alors oui, ce n'est pas Sam Raimi qui est à l'origine de l'idée de la nature organique des fils de Spider-Man. James Cameron y avait pensé avant. Et comme ce script a servi de base de travail à David Kopp et aux autres scénaristes qui se sont succédés pour le premier film Spider-Man produit par Sony, ceci explique peut-être cela. Pour info, la toile organique était aussi présente dans le projet du film Spider-Man que devait réaliser Tobey Hooper pour la canon. Vous savez, le remake déguisé de la mouche que j'avais évoqué vite fait tout à l'heure. Donc, il est difficile de savoir qui possède vraiment la paternité sur cette idée qui n'existait pas dans le comics. Toujours est-il que, comme je le disais à l'instant, le scriptman de Cameron a eu une grande influence sur l'adaptation de Sam Raimi, et que celui-ci ne l'a pourtant jamais crédité, et encore moins remercié, au grand regret du réalisateur de Terminator. Et pour revenir sur les raisons de la présence de la toile organique dans ce scénario, James Cameron a expliqué, lors d'une interview, que pour lui, il était logique que les fils d'araignée soient une composante de la métamorphose de Peter. Il lui semblait impensable qu'un jeune garçon, aussi brillant soit-il, soit capable de créer un appareil qui aurait sans doute coûté, 20 ans de travail pour l'agence de recherche américaine pour l'armement. En plus, James Cameron voulait que la morsure de l'araignée ait aussi des conséquences pour Peter afin de lui montrer qu'il n'y avait pour lui plus aucun retour possible. Mais revenons sur l'histoire. Car Peter, là, il est en ce moment même pris de panique. Il sort de la maison et court, dans une frénésie aveugle. Il fuit, encore et toujours, comme s'il pouvait échapper au monstre qu'il était devenu, jusqu'à ce qu'il se retrouve nez à nez avec un camion de livraison. Et là, d'un bond, Peter lévite et se retrouve collé à la face d'un immeuble, à 6 mètres de haut. Il hurle de terreur. Lorsqu'il voit un gamin passer à vélo, il demande d'appeler les secours, car il est coincé. Il le voit bien, là, que c'est pas normal d'être accroché à un mur comme ça, là. Le jeune garçon regarde un instant, puis repart, laissant Peter tout à sa détresse. Peter va donc décider de se sauver lui-même. Délicatement, notre héros essaie alors de se décoller, une main après l'autre. Il y arrive si bien qu'il finit par tomber. Heureusement pour lui, il arrive à atterrir avec l'agilité d'un chat, sans se faire la moindre égratignure. La chance. On arrive au moment où Peter, là, va tenter d'apprivoiser ses nouvelles capacités. Son horreur initiale se transforme peu à peu en euphorie. Il trouve que son corps, habituellement tout chétif, est recouvert d'une musculature qui se fait bien plus visible. Mais comme vous le savez, ses pouvoirs ne lui apportent pas qu'un petit plus esthétique. Il se rend compte qu'il peut soulever maintenant une voiture. Il maîtrise aussi de mieux en mieux sa capacité à faire de la toile. De retour à l'école, il constate que si la morsure l'a changé profondément, il reste le même nerd aux yeux de tout le monde. Cette situation l'arrange de toute façon. Il ne veut pas leur montrer qu'il est devenu un monstre de foire. Pour son exposé de science, Peter choisit de parler des araignées afin d'en apprendre un peu plus sur elles et sur lui par la même occasion. Cette nouvelle ne plaît guère à Mary Jane, elle déteste les araignées. Et bon, on va pas la plaindre. Il faut tout de même pas oublier qu'elle s'est collée avec l'intello de service juste pour avoir une bonne note. Même si Peter essaie de ne pas laisser cette nouvelle vie influer sur sa scolarité, il sent que la nuit qui l'effrayait tant jusque-là l'appelle maintenant. Il lui suffit de monter sur le toit de la maison pour que lui pousse l'envie d'explorer New York. Il part donc, sautant d'immeuble en immeuble, suspendant à des réverbères. Il goûte à une liberté qu'il n'avait jamais connue jusque-là. Et cette liberté en question lui donne envie même de suivre des personnes dans la rue sans qu'elles ne le remarquent. Il devient le témoin de leur vie quotidienne. Il prend goût à ce voyeurisme plutôt léger qui le conduit à se rendre chez Mary Jane. Là, il la découvre en train de se déshabiller. L'émoi qui frappe Peter fait perdre sa concentration. Ses masses décollent du mur et finit par s'écraser dans un rosier plus bas. Alors, pour tout vous avouer, je suis pas hyper fan de cette scène. Elle a d'ailleurs permis à certains sites de réduire le scénario à cette dimension sulfureuse, en omettant évidemment tout le reste. Pourtant, elle se révèle tout de même comme un bon moyen de montrer le sentiment de toute puissance qui bouleverse Peter et qui lui permet de faire des choses qu'il aurait à peine osé imaginer lorsqu'il était un gamin normal. James Cameron explique d'ailleurs dans le script qu'il espère que cette métamorphose de Peter sera vue comme une métaphore de la puberté et de son éveil à des pulsions primaires. Peter, de son côté, est aussi pris de pulsions capitalistiques. Il se demande s'il n'y aurait pas un moyen de se faire un peu d'argent avec ses nouvelles capacités. Et pour assouvir son besoin de dollars, il décide d'enfiler un barésille sur la tête afin de faire quelques galipettes dans la rue incognito. Évidemment, cela ne passe pas inaperçu. Il attire vite l'attention d'une personne qui lui demande s'il serait prêt à se produire lors de soirées privées. Il lui conseille tout de même, pour parfaire son numéro, de faire un petit quelque chose pour améliorer son habit de scène. Ça fait peut-être un peu chiche, le barésille sur le visage. Peter ne peut refuser cette opportunité. Il réalise donc un costume en assemblant un juste corps provenant d'un studio de danse, des barésilles et autres pièces pour faire le masque. Il agrémente tout ça de fil liquide pour dessiner des motifs de toile d'araignée. Et surtout, il va se fabriquer de faux lanceurs de toile afin de ne pas passer pour un monstre de foire et justifier ainsi sa capacité à générer de la soie avec ses poignets. Avec cet accoutrement, notre héros s'amuse à faire le beau devant le miroir. Il travaille même sa voix pour s'en donner une plus grave. Peu à peu, Peter s'efface derrière cette nouvelle figure qu'il vient de créer et qui dégage déjà une certaine confiance mêlée à une pointe d'arrogance. Maintenant que Spider-Man est présenté, James Cameron va procéder à une petite accélération dans le récit. En quelques lignes, notre héros va devenir un personnage public, passant de soirée privée au plateau de télévision. Cette notoriété va attirer la curiosité d'un certain Carlton Strange, celui qui va jouer le rôle d'antagoniste dans cette histoire. Le scénario bascule maintenant dans un manoir à Manhattan. Un homme regarde un animateur ridiculiser Spider-Man à la télévision. Mais Peter, sous son costume, trop soucieux de plaire, est incapable de s'en rendre compte. Cet homme, devant la télévision, c'est donc le fameux Carlton Strange. Il est décrit comme ayant la quarantaine d'années, les cheveux lissés en arrière, arborant des habits sur mesure. Le scénario précise d'ailleurs qu'il est l'archétype même du nouveau riche dans toute sa splendeur. James Cameron va d'ailleurs le comparer à plusieurs reprises à Donald Trump. Selon certains sites, à l'écran, il aurait pu être incarné par Lance Henriksen, l'un des comédiens fétiches de James Cameron. Michael Biehn, un autre des acteurs habituels du réalisateur, aurait pu jouer, selon eux, Boyd, l'homme de main de Strange qui vient d'apparaître dans le script. Ce nouveau personnage, que l'on découvre ici, est décrit comme un homme à la mâchoire aussi carrée que ses épaules. Il est balèze, quoi. Strange vient de lui demander de collecter un maximum d'informations sur ce Spider-Man. Le moyen que Boyd va trouver pour satisfaire son patron consisteront en partie à se servir de ses points. Mais avant de voir Spider-Man se prendre une raclée, notre héros joue une nouvelle fois les narrateurs pour nous introduire le background de Strange. Il commence son monologue ainsi. Carlton Strange n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Tout comme je n'ai pas toujours été Spider-Man. Au tout début, il était un loser du nom de Carl qui était sur le point de chuter à nouveau avant de recevoir sa tape cosmique. Allez, maintenant que Spider-Man a fait les présentations, c'est le moment du flashback. Nous voilà projetés 10 ans en arrière, dans une voiture roulant à vive allure, sur une route en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique. Au volant, on trouve Carlton Strange, plus jeune, habillé de vêtements minables, qui hurle « Tiens bon, Bobby, tout va bien se passer !» Le Bobby en question est affalé sur la banquette arrière et ce n'a pas l'air de bien se passer pour lui. Il se vide de son sang à cause d'une balle logée dans son estomac. Derrière eux, retentit la sirène d'une voiture de police. Pas question de se faire attraper. Enfin, au moment où les deux voitures se crashent, on pourrait croire que cela pourrait faire obstacle à l'envie de fuir pour Strand. Mais non, à peine extirpé de la carcasse du véhicule, il détale déjà dans le désert en serrant son pistolet et les maigres liasses de billets qu'il a pu récupérer du cambriolage qu'il vient de faire. Il court à en perdre haleine. Il crave une clôture qui lui fait obstacle. Malheureusement, il se retrouve dans un endroit étrange, composé de tours monumentales en acier dressées vers le ciel. C'est une œuvre d'art conceptuelle nommée The Lightning Field. Et vous allez vite comprendre pourquoi elle s'appelle ainsi. Strain est à bout de souffle. Il se dissimule derrière l'une de ces fameuses tours pour se reposer un peu. Autour de lui, la nuit commence à tomber. C'est une nuit hurlante et sauvage, remplie de la fureur d'une tempête du désert. Cette phrase est issue du script. J'adore, il y a beaucoup de phrases comme ça, c'est excellent. Bien évidemment, la foudre est attirée par l'édifice monumental. Au centre de ce chaos, Strain finit crucifié par des arcs électriques qui le parcourent de part en part. Même s'il y a peu d'indications de mise en scène, le script indique tout de même que James Cameron souhaitait faire un plan serré sur les globes oculaires de Strain où dansent des arcs électriques. Les flics, restés derrière la clôture, regardent le corps de Strain s'écraser par terre, fumant et immobile. Ils sortent alors leur thermos pour attendre pépère que l'orage cesse enfin afin d'aller récupérer le reste du fugitif. Et comme vous vous en doutez, vu que c'est un flashback, Strain n'a pas été tué par la foudre évidemment. Il se relève alors, malgré le choc, et poursuit sa course jusqu'à trouver refuge dans un ranch. Là, la chance semble enfin lui sourire. Il y trouve une camionnette avec des clés sur le contact. Franchement, il tente de la démarrer. Rien. Compte peut-être que la chance n'était pas de son côté. Il ouvre la capot et là il découvre que la batterie elle est plus là. Pas de bol. La colère monte alors en lui. Il se saisit des câbles de la batterie et le moteur se met soudain à vibrer. Il regarde ses mains et découvre soudain qu'il peut générer de l'électricité. Alors oui, si vous n'avez pas compris, Carlton Strain est électro. Alors oui, ce n'est pas la version originale du personnage, pas celui qu'on retrouve en tout cas dans les comics. Contrairement à Max Dillon, son pouvoir ne se limite pas à faire jaillir des éclairs de ses mains, loin de là. Mais il est en gros une version cheatée du personnage. Strain, lui, est en mesure de ressentir le moindre courant d'ondes électriques et électromagnétiques. Il peut même sentir le courant parcourir les fils à travers le mur. Mais ce n'est pas tout. Il lui suffit aussi de poser les mains sur un fil téléphonique pour entendre la conversation qui est en train de se dérouler ou de caresser un ordinateur pour télécharger les données d'un disque dur dans son esprit. Il va bien évidemment se servir de ses nouvelles capacités pour bâtir son empire. Alors principalement, ses capacités à voler et à manipuler les données. Il a compris que le véritable pouvoir venait du contrôle de l'information et des rouages de l'économie. Il considère même que la démonstration de force brutale est plutôt vulgaire. Bon, il va pas hésiter à s'en servir quand même, hein. Mais là, il est temps de mettre fin au flashback et de retourner dans le manoir où Cordelia, une femme incroyablement belle, vient de faire son entrée. Elle s'approche de Strain. Mais malgré le désir apparent qu'ils montrent l'un pour l'autre, elle conserve tout de même une petite distance avec lui, comme si elle éprouvait de la réticence à le coller de trop près. Vous allez comprendre bientôt les raisons de ses craintes, mais on va quand même mettre là une petite musique romantique là, pour illustrer cette scène, parce qu'on sent qu'il y a une étrange tension sexuelle qui semble monter. Après quelques brefs dialogues passionnés, Cordelia commence alors à se dévêtir. Elle ouvre lentement sa robe de soie pour révéler une combinaison en caoutchouc. Cet étrange vêtement a pour but de la protéger des décharges électriques qu'elle pourrait recevoir au contact de son amant. D'ailleurs, cette combinaison ne semble pas être un frein à leurs jeux amoureux. Lorsque Strain pose la main sur elle, de petits crépitements se font entendre. Le scénario précise que Cordelia semble autant excitée que craintive. Et elle a bien raison d'être inquiète, car Strain souhaite qu'elle retire ses vêtements isolants. Évidemment, Cordelia refuse. Et Strain n'est pas homme à comprendre le concept de non, loin de là. Il la saisit et l'embrasse de force. Elle commence alors à convulser, comme si elle était parcourue de tout petits frissons. Puis l'effet de cette étreinte électrique s'accentue, et elle finit par s'agiter comme une épileptique avant de s'écrouler, inerte. Comprenant soudain la folie qui lui a pris, Strain semble, un très bref instant, bouleversé. Mais il se reprend vite. Il défait la combinaison de Cordelia, glisse ses mains contre sa poitrine et, comme un défibrillateur, lui envoie une décharge électrique pour relancer son cœur. Les yeux de la jeune femme commencent alors à s'ouvrir. Mais la première remarque qu'elle fait à son amant, c'est qu'elle ne sait pas si elle va être en mesure de supporter leur petit jeu plus longtemps. Maintenant que les antagonistes ont été présentés, il est temps de retourner au lycée, où Mary Jane doit s'accommoder du sujet que Peter a imposé pour leur devoir commun de science. Vous savez, les araignées. Elle ne voit aucune beauté chez ces bestioles, malgré l'enthousiasme que met Peter dans leur description. Par contre, elle se rend compte qu'étrangement, elle commence à apprécier la compagnie du jeune garçon. Il la fait rire. Ce rapprochement entre l'autre intello et sa petite amie n'est pas du goût de Flash. Alors qu'ils sortent tous deux de l'école, Flash invective Peter. Mais ce dernier le laisse dire sans broncher, refusant de céder à la violence que McCreary veut lui imposer. Ce n'est pas dans sa nature de se battre. Peter change d'avis lorsqu'il découvre qu'après son altercation avec Flash, celui-ci se dispute avec Mary Jane et finit par la gifler. Ce que Peter s'interdit, Spider-Man se l'autorise. Accoutré de son costume de super-héros, il attend le moment propice pour venger Mary Jane. Il le trouve lorsque Flash revient de son entraînement gymnastique. Peter lui tombe dessus. Il ne lui laisse aucune chance. Il le frappe encore et encore, puis le jette à l'intérieur de sa belle Porsche. Peter s'en prend maintenant au véhicule. Il le détruit à grands coups de panneaux de signalisation. Pour conclure son passage à tabac, Spider-Man ordonne à Flash de rester loin de Mary Jane. Sinon, il en subira les conséquences. Cette scène se termine par un de mes monologues préférés de Spider-Man qui s'éloigne un tout petit peu du ton léger habituel et qui nous révèle un Peter Parker un peu plus introspectif. C'est une voix off de Spider-Man qui s'ajoute donc sur des images d'un Peter Parker haletant qui ne comprend pas ce qu'il lui a pris. Et voilà ce qu'il dit. Je me demande si chaque héros se souvient du premier coup de poing qu'il a donné. Eh bien moi, ouais. Peut-être que toutes les brutes qui sont succédées au fil des ans à donner des coups de pied aux gamins maigres que j'étais y sont pour quelque chose. Mais toute cette rage emmagasinée en moi est sortie si vite que c'en était effrayant. Pendant une fraction de seconde, je voulais juste le tuer. C'est une bonne chose que sa voiture se trouvait là. J'ai toujours détesté sa Porsche. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que s'en prendre à lui était si bon. On entend avec ce monologue que James Cameron travaille son personnage. Il va même le pousser jusque dans certains de ses retranchements. Car, en plus des histoires au lycée ou celles liées à Strain, le réalisateur intercale des scènes où il confronte Spider-Man à une certaine réalité. Ainsi, lorsqu'il vadrouille dans New York, notre héros y croise tout autant des gens très heureux et d'autres se débattant dans la misère la plus sordide. Ces disparités de destin le bouleversent car il n'arrive pas à comprendre pourquoi certains ont tout alors que d'autres n'ont rien. Dans ce scénario, James Cameron ne nous dépeint pas un monde manichéen où un super-héros se contente d'affronter simplement un ennemi bien défini. Bon, même si ça reste le cœur de l'intrigue. Il plonge aussi son personnage dans les zones grises qui composent la société. Ainsi, pour illustrer sa démarche, le réalisateur écrit une scène où Peter tente de secourir une femme qui se fait battre par son mari. Notre héros ne comprend pas pourquoi celle-ci prend la défense de son bourreau alors qu'il essaie simplement de la sauver. Pour autant, James Cameron n'en fait pas un récit naturaliste, hein, évidemment. Très vite, il replonge son personnage dans des considérations beaucoup plus super-héroïques. Donc, notre héros, en plus des rondes sur les hauteurs de New York, il continue de faire aussi des apparitions sur les plateaux de télévision. Après l'une de ses représentations, il est approché par Cordelia, qui lui tend un mot où il est écrit « Il y en a d'autres comme vous », avec une adresse et une heure de rendez-vous. Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, la femme a déjà disparu. Il court alors après, afin de lui demander quand même des explications, mais il la voit disparaître dans une limousine blanche. À la place, il se retrouve nez à nez avec Boyd. Le sbire de Strain fait un peu moins de mystère que Cordelia. Il immobilise aussitôt Peter en posant ses mains énormes sur ses épaules. Peter essaie de se délivrer de cette étreinte, sans succès. Et là, vous entendez la petite musique là de la bagarre qui monte ? Eh, je vous avais prévenu que Boyd allait mettre une raclée à Spider-Man. Eh bien, c'est le moment. Peter frappe dans le ventre de son agresseur. Mais son poing s'enfonce à l'intérieur de son corps, jusqu'au coude. Il extirpe sa main et remarque qu'elle est recouverte de sable. Et oui, vous avez compris, Boyd est l'équivalent de Sandman. Et voilà. Cette révélation est le moment parfait pour faire un nouveau flashback afin d'explorer le passé de ce personnage. Alors, Boyd était auparavant un homme de maintenance quelconque dans un grand projet de recherche militaire. Ses employeurs travaillaient sur la téléportation de la matière. Et comme vous en doutez, notre homme se retrouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Ou pour Boyd, c'est plutôt au bon endroit au bon moment, vous allez vite comprendre. Alors qu'il est là en train de réparer tranquillement des tuyaux dans un tunnel, il a été pris dans une réaction incontrôlable liée à l'expérience qui se déroulait à l'étage au-dessus. Là, les molécules de Boyd ont rencontré les molécules d'un tas de sable et de cette union est né donc Sandman. Il va ainsi passer d'une personne tout à fait ordinaire à un voleur extraordinaire, qui utilise ses nouvelles habiletés pour des cambriolages, jusqu'à ce que Strange finisse par l'engager. Maintenant, il est le bras droit de l'homme d'affaires, et la mission qui lui a été confiée est de tester Spider-Man afin de savoir s'il est capable de s'opposer à un adversaire aussi fort que Sandman. Et s'il en a effectivement le courage, le combat va tout de même tourner très vite en la défaveur de notre héros. Grâce à sa capacité de modifier la densité de son corps, Boyd envoie un crochet dans la mâchoire de Spider-Man. Et celui-ci a l'impression d'avoir rencontré un mur de briques de plein fouet. Boyd continue de faire pleuvoir les puissants. Peter qui tombe à genoux, haletant. Avec l'énergie du désespoir, notre héros jette un dernier coup de poing contre son adversaire. Mais lorsqu'il le frappe, sa main rencontre une nouvelle fois du sable. Boyd met fin au combat avant que Spider-Man soit KO. Son corps se dissout, ou un tas de sable qui s'écoule à travers la grille qui mène aux égouts. Peter n'est pas dupe, il vient de subir une très lourde défaite. Il n'a jamais été en mesure de repousser son agresseur. Mais les coups ici vont malheureusement se révéler moins douloureux que l'événement qui arrive. Car voici le moment qui va marquer de son empreinte l'existence de Peter Parker, la mort de son oncle Ben. Cet événement prend racine au moment où Peter se rend compte qu'il n'arrive pas à toucher l'argent de ses prestations à la télévision. Oui, ses pulsions capitalistiques sont un peu l'équivalent de son Spider-Sense ici dans cette histoire. Comme les émissions où il fait ses prestations refusent de le payer en espèces, il a donc engagé un agent pour servir d'intermédiaire afin de collecter ses cachets. Bien évidemment, vous sentez l'arnaque venir, mais Peter, lui, dans sa naïveté, bah pas du tout. Au moment où il demande à récupérer son dû, l'agent en question lui répond que bah, il peut rien faire, hein. Il est complètement fauché là sur le coup, vraiment, vraiment rien. Il vient même de se mettre en faillite, c'est dire. Mais s'il veut, hein, il peut toujours appeler la police. Hein, il est certain qu'ils prendront sa plainte, hein, une fois bien sûr qu'il aura retiré son masque et qu'il aura montré ses papiers d'identité. Bien sûr, l'agent sait qu'il ne le fera pas. Sachant que l'anonymat est un enjeu crucial pour Spider-Man, notre héros se retrouve bien évidemment coincé. Tout au long du scénario, James Cameron nous a montré que Peter préférait dissimuler son identité pour ne pas passer pour un monstre de foire. C'est pour cette raison qu'il se cache derrière un masque et qu'il a créé aussi des faux lance-toiles, et surtout qu'il ne peut rien opposer à cet agent véreux. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est de partir avec le peu de dignité qui lui reste. Alors, lorsqu'il croise un voleur dans le couloir du même immeuble où il se trouve, hein, bah évidemment, il le laisse s'enfuir. Après tout, cette histoire, c'est pas son problème. Comme vous le savez, cette inaction scelle le destin de Peter. Au moment où il sort rejoindre son oncle, qui l'attendait en bas de l'immeuble, il le trouve, gisant sur le trottoir, un trou creusé dans la poitrine. Le vieil homme venait de se faire tirer dessus. Dorénavant, Peter n'a plus qu'une obsession, retrouver l'assassin de son oncle. Le script devient à ce moment-là très allusif hein, sur les recherches de notre héros. Ce passage se résume tout simplement en une phrase, qui est « Il espionne les policiers, prenant ce qu'ils savent, tout en suivant ses propres pistes ». Tout ça va le mener à un entrepôt où s'est réfugié le meurtrier. Cette confrontation laisse très peu de place au dialogue. Le malfrat ouvre très vite le feu sur Spider-Man. Notre héros évite les balles, entoile l'arme et attrape l'homme par la gorge en s'apprêtant à lui exploser le crâne à coups de poing juste au moment où il remarque qu'il a un tatouage sur sa main. C'est le même motif que celui du voleur qu'il avait laissé passer dans le couloir quelques jours auparavant. Tout à coup, un sentiment de culpabilité vient le frapper là dans toute sa crudité. Il se rend compte que s'il avait arrêté cet homme, lorsqu'il le pouvait, son oncle serait encore en vie. Cette révélation rince soudain la colère de Peter. Plutôt que de faire vengeance lui-même, il décide donc de livrer le meurtrier de son oncle à la justice. Et pour ça, il le balance déjà prêt à embarquer sur le premier capot de voiture de police qu'il croise. Malheureusement, la suite des événements ne se passe pas comme Peter l'aurait souhaité. Le malfrat se fait passer pour une victime et commence à pleurer en appelant à l'aide pour qu'on le libère. Les flics, eux, souhaitent questionner Spider-Man hein, pour tirer toute cette histoire au clair. Mais évidemment, tout d'abord, il lui demande de retirer son masque. Décidément, c'est une maladie. Comme vous le savez, Peter, lui, souhaite plus que tout préserver son identité, donc il refuse. Alors les agents de police décident tout simplement de passer les menottes à notre héros. Le jeune garçon devient furieux. Il est traité comme un criminel, alors qu'il vient d'attraper l'assassin de son oncle. Mais évidemment, les esprits s'échauffent. Surtout lorsque Peter brise les menottes. Il repousse les deux agents qui atterrissent sur le trottoir et disparaît dans la nuit avant que les forces de l'ordre n'aient ouvert le feu sur lui. L'image publique du gentil Spider-Man qui faisait des galipettes à la télévision en prend un sacré coup. D'ailleurs, sur une chaîne locale détenue par un certain J. Jonah Jameson, le journal du soir raconte que deux policiers ont été agressés par un type costumé du nom de Spider-Man. Oui, vous avez bien entendu, Jameson est ici le patron d'une chaîne de télévision. C'est tout, il ne sera jamais fait mention du Daily Bugle dans ce scénario. Les actes de Spider-Man font de lui un criminel aux yeux des autorités. Les policiers le détestent car il les fait passer pour des incompétents, les médias condamnent ses actes, et Jameson, lui, de son côté, surfe sur le sujet en grossissant le trait. Il le présente comme une menace auprès de son public, dont le seul but est de gonfler l'audimat de sa chaîne. Bien évidemment, ce travail de justicier a des répercussions sur Spider-Man, car il se sent persécuté, et surtout, totalement incompris. Peter Parker est en quête d'un référent, d'un guide pour l'aider, et c'est là qu'intervient Strange. Alors que Peter se présente au rendez-vous donné par Cordelia, l'homme d'affaires lui avoue qu'il est à la recherche d'êtres exceptionnels, comme lui. Il pense que le destin les a élevés au-dessus des gens du commun. C'est pour cette raison qu'il a été chercher Sandman et qu'aujourd'hui, il s'entretient avec lui. La volonté affichée de Strange est de prendre Spider-Man sous son aile pour lui enseigner tout ce qu'il sait. Ah, la proposition est tentante. Comme je l'ai dit, le jeune garçon se sent tellement seul qu'il ressent au fond de lui le besoin d'avoir la compagnie de quelqu'un qui le comprendrait et qui ne serait pas sujet à le considérer comme une bête de foire. Et Strange, de prime abord, semble avoir les qualités requises. Peter est aussi, il doit bien l'avouer, quelque peu attiré par la vision du monde que le milliardaire lui dépeint. Celui-ci lui explique qu'ils sont la nouvelle étape de l'évolution humaine. Pour Strange, les masses existent que dans le seul but de porter sur leurs épaules des êtres aussi exceptionnels qu'eux. Strange ajoute que vu qu'ils sont plus qu'humains, ils peuvent donc prendre tout ce qu'ils désirent car tout leur revient de droit. Bah, c'est normal. En plus, lui glisse-t-il, petite cerise sur le gâteau, s'il le suit, il pourra avoir des femmes aussi belles que Cordelia, car elles viennent d'elles-mêmes auprès des gens de leur espèce. L'offre est appétissante, Peter le sait, mais sa boussole morale est beaucoup plus forte que ses sirènes. Mais comme je l'ai déjà dit, Strange a un problème avec le fait de se voir opposer à un refus. Alors, quand Spider-Man lui lance qu'il n'est pas intéressé, il prend cette réponse plutôt mal, surtout que le jeune garçon ajoute que dorénavant, ils sont ennemis. Ah, fort bien, Strange prend acte de cette décision et... D'un éclair, il foudroie Spider-Man qui se trouve projeté à travers la pièce. Un instant étourdi, le sens de l'araignée lui permet d'éviter les autres salles, du plafond au mur et du mur au plafond. Boyd prend part à l'affrontement lui aussi. Peter se retrouve acculé. Il ne doit sa survie qu'à un énorme aquarium où barbotent des anguilles électriques. A l'aide de ses toiles, il renverse le bassin qui tombe en cascade au pied de Strange qui se trouve alors court-circuité. C'est l'occasion rêvée pour Peter de s'enfuir. Il profite de la débandade qu'il vient de provoquer pour sauter d'une fenêtre et disparaître dans la nuit. Strange, bien évidemment, n'a pas dit son dernier mot. Pour arriver à ses fins, il achète la chaîne de télévision de Jameson et lui propose un budget illimité afin qu'il dénigre Spider-Man sur tous les programmes diffusés. Mais il ne réduit pas sa campagne de déstabilisation aux médias. Il engage aussi des voyous pour qu'ils s'habillent en Spider-Man lorsqu'ils commettent leurs crimes. L'objectif de Strange est simple. Il veut que Spider-Man voie en permanence les gens comme une menace afin qu'ils se sentent isolés. Ainsi, il n'aura d'autre choix que de retourner vers Strange car il sera le seul à l'accueillir les bras ouverts. Et dans les faits, cette campagne est plutôt efficace. Peter se trouve découragé par la défiance qui monte parmi les gens et ce sentiment est accru par de nouvelles épreuves qui l'assaillent. Car James Cameron veut le pousser à remettre en question sa volonté de jouer les super-héros. Le réalisateur confronte ici Spider-Man à sa difficulté d'agir pour le bien dans un monde vicié où la ligne entre ce fameux bien et le mal est de plus en plus floue. Alors qu'il fait l'une de ses rondes habituelles, Spider-Man tombe sur un groupe de voleurs qu'il tente d'arrêter. Mais l'un d'entre eux arrive à s'enfuir. Il court et se dirige droit vers l'échelle de secours, sur le flanc du bâtiment. Malheureusement, dans sa précipitation, il perd l'équilibre et bascule dans le vide. Peter essaie de le rattraper, mais il arrive trop tard. Le fuyard heurte le trottoir en contrebas et meurt sur le coup. Notre héros se rend compte que ces voleurs n'étaient rien d'autre que des gamins qui avaient simplement besoin d'argent, tout comme lui. Pour preuve, Tante May, qui ne touche que les aides sociales, a du mal à payer les traites de la maison. En plus, les factures médicales s'accumulent, et ce n'est pas fini. Elle a maintenant besoin d'une nouvelle opération. Et malheureusement, son assurance santé ne la couvre pas. Peter n'a d'autre choix que de se chercher un travail. S'il pense au préalable postuler pour des petits boulots classiques, son esprit dérive vite vers les 200 000 dollars qu'il a vu traîner sur la table basse d'un trafiquant tout à l'heure. Pourquoi ne pas les prendre? Cet argent ne manquera à personne, surtout que les trafiquants en question sont tous entoilés et attendent sagement que les flics les récupèrent. Et si vous pensez que Spider-Man n'a pas récupéré le pactole, bah vous vous trompez. Il s'est faufilé dans la maison où l'attendait cette montagne de billets. Et il s'est servi. Oh, bien sûr, le lendemain matin, dans un quartier pauvre, des enfants ont vu volter comme de la neige des centaines de billets tombant du ciel et une silhouette rouge et bleue se balancer entre les toits. Et de leur côté, les spectateurs auraient pu entendre la voix off de Spider-Man dire à peu de choses près ceci. Et qu'est-ce que j'allais faire ? Traquer tous les drogués du coin pour leur rendre leur argent ? Non, mais je dois tout de même avouer que combattre Sandman était beaucoup moins douloureux que de déverser ce sac. Maintenant, il est temps de changer d'ambiance, car je vais vous parler d'une des scènes les plus improbables de tout le script. En tout cas, celle qui sert de clickbait pour certains sites internet. Mais avant d'aborder la scène de sexe, car c'est de ça dont il va s'agir, on va revenir un tout petit peu en arrière, juste avant le moment où Spider-Man rencontre Strain. Si Peter et Mary Jane ont commencé à se rapprocher à la suite de leur travail commun de science, Peter n'a pas abandonné sa vilaine habitude d'épier sa camarade de classe à son insu. Un jour, qu'il la suit après l'école, la jeune fille a le malheur de tomber nez à nez avec un groupe de voyous qui s'apprête à l'agresser. Elle est secourue in extremis par Spider-Man qui, après leur avoir réglé leur compte, emporte Mary Jane dans ses bras dans le ciel new-yorkais. La peur de la jeune fille fait soudain place à de l'excitation. Elle a l'impression de vivre un rêve éveillé dans les bras de son sauveur costumé. Alors qu'ils se retrouvent tous deux sur le toit du bâtiment, elle se love contre lui. Derrière son accoutrement de super-héros, Peter, lui de son côté, a accumulé suffisamment de confiance pour embrasser Mary Jane à travers le tissu de son masque. Et là, James Cameron précise que ce moment est tendre et sensuel. Si on a vu James Cameron prendre le temps de travailler la psychologie de Peter, ou la dimension morale de Spider-Man, ou encore le background de Strain et de Boyd, par exemple, la romance, elle, manque quelque peu d'espace pour s'exprimer pleinement. Car ça y est, on y est, Mary Jane et Spider-Man entretiennent maintenant une relation amoureuse. Ah, c'était facile, hein. Il aura suffi que Peter sauve la jeune fille, l'emmène sur un toit pour qu'ils se mettent à s'embrasser derrière le masque. Et ça, ce n'est que le début. Cette fois-ci, on reprend l'histoire après que Strain ait fait la rencontre de Spider-Man et après qu'il ait lancé les médias dans la campagne de dénigrement dont je viens de vous parler. Peter a décidé de faire une belle surprise à Mary Jane. Il la conduit donc au sommet du pont de Brooklyn. Là, je plante le décor. Il faut s'imaginer ces deux êtres se balançant de toile en toile dans le ciel new-yorkais. Mary Jane hurle de peur et d'exaltation. Si je vous passe la description de carte postale qui est plus longue que la manière dont Spider-Voyeur a mis pour emballer Mary Jane, il est à noter que le script précise que le moment est purement magique. Et là, attention pour les oreilles les plus chastes, on va vivre du National Geographic porn. Mais avant que je vous raconte cette scène bizarre, je me dois de vous préciser un détail. Pour faire la cour à Mary Jane, Peter va singer les danses nuptiales que font les araignées. Et cela m'a inspiré ce que vous allez entendre. Dans la jungle urbaine, juchée au sommet du pylône du pont de Brooklyn, nous découvrons un Spider-Man se déplacer en des arcs hypnotiques afin d'attirer l'attention de sa femelle. Dans sa bouche sort une série de sons articulés où l'on devine qu'il énumère les manières dont les araignées font la cour. Voyez comment sa femelle réagit. La Mary Jane est subjuguée par le spectacle de ce mâle en costume qui tourne autour d'elle. Voyez comme sa lèvre tremble, comme sa respiration est profonde. Le Spider-Man continue son approche. Il commence à attacher les mains de la Mary Jane. Le Spider-Man lui dit que le lien n'est purement que symbolique. Et chez certaines araignées crabes, la femelle peut s'en libérer quand elle le souhaite. Mais ce dernier cérémonial suffit pour que leur désir s'exprime. Le Spider-Man retire son masque pour embrasser à pleine bouche la Mary Jane. Tout à leur pulsion, ils font alors l'amour. Bon, là il est temps pour nous de jeter un voile pudique sur leurs ébats et nous projeter le lendemain matin, où l'on découvre une Mary Jane totalement épanouie. Le script précise qu'elle déborde de confiance. Elle n'a plus besoin de chercher l'acceptation de ses pairs. Et oui, dans son parcours de personnage, il lui a suffi qu'elle couche avec Spider-Man pour qu'elle se révèle à elle-même. C'est magique. Mais ce n'est pas fini pour Mary Jane. Oh non, 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 non. Une bonne trajectoire comme la sienne ne serait pas complète sans passer par la case Demoiselle en détresse. Et pour réussir ce miracle, il a suffi que Boyd montre à Strain des vidéos où l'on découvre Spider-Man en train d'embrasser MJ. Bien évidemment, en tant que méchant de l'histoire, qui sont-ils pour contrarier le destin cliché de la jeune fille? Hein? Qui sont-ils? Surtout maintenant qu'ils savent qu'elle peut servir de moyen de pression sur Spider-Man. Boyd est donc envoyé pour l'enlever. Et pour le coup, il y met les formes. Il y met même du chloroforme. Oui, oui, c'est le moment jeu de mots de l'épisode. Ah, faut dire qu'on y pense bien que c'est logique. Quand on s'appelle Sandman d'endormir les gens comme marchand de sable, eh ben oui, fallait y penser, c'est tout. Sans nouvelles de Mary Jane, Spider-Man, lui, commence à s'inquiéter. Lorsqu'il se rend chez elle, il découvre des traces de sable dans sa chambre. Bon, il n'a pas besoin de réfléchir très longtemps pour deviner ce qui a pu se passer. De son côté, Jameson diffuse une vidéo truquée issue des fameuses images que Boyd avait montrées à Strain, où l'on voit, cette fois-ci, Spider-Man disparaître avec Mary Jane dans l'obscurité. Ici, pas de bisous, évidemment. Les médias et la police en tirent très vite la conclusion que c'est Spider-Man qui a kidnappé la jeune fille. Notre héros, de son côté, se précipite dans le manoir de Strain pour délivrer sa petite amie. Malheureusement, il ne la trouve pas. À la place, il découvre le corps sans vie de Cordelia. Le scénario précise que Strain, trop pressé par la situation, n'a pas eu le temps de relancer le cœur de son amante après leur dernière étreinte. Mais revenons sur Spider-Man, car il remarque que le mur d'écran de télévision est bloqué sur une image fixe, celle de Strain. Peter lance alors un magnétoscope, il y voit le milliardaire tirer MJ dans le champ de la caméra et donner ensuite rendez-vous à Spider-Man au sommet du World Trade Center. À peine la vidéo s'est arrêtée qu'une équipe de SWAT surgit dans la pièce et ouvre le feu sur Peter. Spider-Man peine à s'échapper. Il saute, tourne et se penche pour éviter la pluie de balles qui fonce vers lui. Jusqu'à trouver une issue vers l'extérieur. Mais le danger n'est pas écarté. Un hélicoptère de la police le poursuit et d'une de ses pales de son rotor, il coupe la toile à laquelle notre héros est suspendu. Peter chute de 10 étages. Après plusieurs essais pour tenter d'éviter de s'écraser, une de ses toiles arrive à se fixer sur la surface d'un bâtiment. Le fil se tend comme un élastique et projette Spider-Man loin dans le ciel. Maintenant qu'il est libéré de son poursuivant à rotor, Spider-Man se rend au lieu de rendez-vous fixé par Strain. Il y retrouve Mary Jane, qui est aussitôt relâchée maintenant qu'elle ne sert plus de moyen de pression. Le milliardaire, quant à lui, reste bloqué sur l'idée de recruter Peter. Il se lance donc dans une nouvelle tirade afin de le convaincre. En substance, il lui dit ceci. Quel intérêt de jouer les héros? Tu ne peux pas sauver le monde parce que tu ne peux pas sauver les gens d'eux-mêmes, de leur propre nature brutale et vénale. En plus, les gens détestent les héros. Les héros les font se sentir mal. Alors, pourquoi gaspiller ton pouvoir pour ces masses ingrates? Ils n'attendent qu'une chose, là, te voir traîner dans la boue afin de se sentir mieux dans leur vie misérable. Strain ajoute qu'il veut qu'il se révèle enfin à lui-même et qu'il arrête de se cacher là derrière des artifices comme son faux lance-toile. Le milliardaire explique qu'il a découvert son secret en faisant analyser sa toile. C'est de la véritable soie d'araignée. Spider-Man ne devrait pas avoir honte d'être ce qu'il est. Il est au fond de lui une araignée, un prédateur, une créature qui à l'état naturel ne s'entrave pas d'idéaux moraux humanistes. Il a reçu un grand cadeau avec ses pouvoirs. Alors, pourquoi le gaspiller? S'il le rejoint, ensemble, il pourrait secouer cette planète et lui soutirer jusqu'à son dernier centime. Une fois de plus, les mots de Strain font de l'effet, surtout quand il accompagne son propos par une montagne de billets. Le milliardaire lui explique qu'il a collecté toute cette fortune de la manière la plus simple possible, en grappillant, grâce à ses pouvoirs, un demi-cent par-ci et un autre par-là, sur toutes les transactions électroniques partout dans le monde. Spider-Man lui avoue que, comme lui, il a volé de l'argent. C'était facile. Personne ne pouvait l'en empêcher. Il s'est rendu compte, à la suite de ça, qu'il existe des lignes à ne pas franchir. Son destin n'est donc pas de jouer les prédateurs comme lui. Bien au contraire, il est plutôt ici pour l'arrêter, car il est l'un des seuls à en avoir le pouvoir. Strain est déçu par ce discours. Mais avant que Spider-Man n'ait le temps de réagir, il se saisit de Mary Jane. Le corps de la jeune fille est alors traversé par un courant électrique. Mais dans un jeu pervers, le milliardaire s'amuse avec la tension pour ne pas l'électrocuter tout de suite. Mary Jane crie, Peter reste figé. Et Strain, lui, s'amuse. Il attrape la tête de la jeune fille et l'embrasse de force. Il rompt un instant le baiser, laissant le temps à MJ de le gifler. Mis hors de lui par ce geste, il se jette à nouveau sur ses lèvres et cette fois-ci, il la foudroie pour de bon. Boyd profite de la distraction pour se solidifier dans le dos de Peter afin de l'emprisonner dans une prise aussi solide que du roc. Peter voit le corps de Mary Jane se cambrer sous l'effet de la décharge, puis retomber comme mort. Une rage sans précédent naît soudain en lui. « Je vais te tuer, connard, tu m'entends? T'es mort !» Voilà ce qu'attendait Strain. Le monstre que muselait Peter, derrière sa moralité imbécile, se réveille enfin. Alors, comme il l'avait fait avec Cordelia, le milliardaire utilise ses mains comme un défibrillateur et relance le cœur de Mary Jane. Mais cet acte n'a pas calmé la colère de Peter. Spider-Man se libère de l'étreinte de Boyd en l'explosant en petits morceaux. Il se jette ensuite sur Mary Jane tout en évitant les éclairs d'Electro. Après l'avoir récupéré, ils plongent ensemble à travers une fenêtre. Strain se précipite pour les rattraper, mais il arrive trop tard. Réfugié sur la tour opposée, Spider-Man permet à Mary Jane de s'enfuir enfin, tandis que lui retourne dans la bataille. Voici l'affrontement final. Et ce n'est pas moi qui l'annonce, mais James Cameron, directement dans le script. Il dit qu'il ne souhaite pas nous ennuyer avec les détails, mais il promet tout de même que ça va être grandiose. Il va se contenter ici de livrer simplement les meilleurs moments. Donc, de mon côté, je vais vous livrer les meilleurs moments des meilleurs moments. Eh oui. Comme je le disais, Strain n'a guère apprécié l'attitude de Spider-Man, et ça se voit, car il pétarade d'éclairs en tous sens. Après avoir créé un pont entre les deux tours en pliant un mât, il laisse Sandman s'occuper pour le moment de notre héros. Celui-ci le matraque de coups de poing dans un palais où il se déforme et se reforme tout autour de Peter. De son côté, Strain vient d'arracher les câbles à haute tension pour s'alimenter. Avec toute cette puissance accumulée, il invoque un champ électromagnétique aveuglant tout autour de lui comme un sorcier appelant un démon. Spider-Man n'emmène pas large face aux assauts répétés de Sandman. En plus, il doit maintenant éviter les éclairs que lui envoie Electro. Mais alors qu'il aperçoit le milliardaire s'apprêter à y lancer une nouvelle rafale électrique, il utilise sa toile pour attraper Boyd afin de le placer entre lui et la foudre. Le plasma frappe Sandman de plein fouet et fait de lui plus qu'un morceau de verre fondu à forme humaine. Electro finit par battre en retraite et retourne sur la tour nord. Mais Spider-Man se jette à sa poursuite. Après un échange de coups et d'éclairs que j'abrège ici et qui pousse les deux combattants jusqu'à la dernière force, Strain s'apprête à lancer la plus grande explosion électrique qu'il n'ait jamais produite. Il fait feu. Peter esquive d'un saut et de ses toiles. Il tire le milliardaire avec lui dans le vide. Tout au long de la descente, Strain libère des éclairs. Peter, quant à lui, pour ralentir sa chute, fait jaillir de la toile jusqu'à ce que l'une d'elles adhère à la surface du gratte-ciel. Strain, lui, continue son plongeon. Notre héros tente de le rattraper. Il lance à nouveau de la toile qui se colle à Electro, mais dans un mouvement de balancier, celui-ci vient s'écraser contre la crochette du vêtement, brisant tous ses os sous le choc. Spider-Man ramène Strain à lui et l'allonge sur l'étage d'observation de la tour sud. Et là, dans une dernière confrontation, le milliardaire découvre pour la première fois le visage de Peter. Il n'était qu'un gamin. La scène se finit sur une pluie de dollars qui se répand sur New York. On se retrouve maintenant au lycée. Peter et Mary Jane ont réussi leur devoir commun de science. Mary Jane, tout à sa joie, embrasse Peter. Elle se rend soudain compte qu'il y a quelque chose de familier dans ce baiser. Le jeune garçon lui demande de fermer les yeux. Et de sa voix de Spider-Man, il lui glisse quelques mots à l'oreille. Et tout à coup, elle comprend. Ils s'embrassent à nouveau. Et là, vous vous dites, comment ça se fait qu'elle ne le sache pas déjà? Elle a quand même fait l'amour avec lui, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Eh bien, c'est simple, vous allez comprendre. C'est parce qu'elle a fait l'amour les yeux fermés. Et oui, elle a respecté son identité secrète, c'est tout. Mais Flash, lui, est bien en dessous de toutes ces considérations. Il se sent donc obligé d'intervenir. L'air de rien, Peter l'humilie sous les applaudissements. Cette scène se termine par cette phrase, qui renvoie à une réplique de Strain et qui semble conclure à merveille le script de Cameron. La vérité, c'est que nous aimons les héros, surtout quand ils sont des outsiders. Avant de lancer les crédits de fin, on retrouve une dernière fois Spider-Man qui s'adresse aux spectateurs. Il fait le point sur la pré-lycée. Mary Jane et lui sont dans deux universités différentes, mais ils continuent quand même à se voir. Elle a de meilleures notes que lui, mais ce n'est pas grave. Lui a une vie de super-héros à gérer en parallèle. Et voilà comment se termine cette excellente histoire de Spider-Man imaginée par James Cameron. Maintenant, il est temps que je vous parle des raisons qui ont fait que le film ne s'est jamais monté. Je vous ai dit que James Cameron avait esquivé le script récupéré de la canon. Vous savez, celui que je vous ai résumé dans le premier épisode. Mais ce n'est pas la seule chose que James Cameron et la Carole Co ont ignoré. Madame Golan, celui auprès de qui la Carol Coe avait acheté les droits de Spider-Man, s'est rendu compte que son nom n'apparaissait nulle part lors des premières annonces faites dans Variety. Il s'en est donc plaint à la Carol Coe, et celle-ci lui a appris que le contrat de Cameron lui donnait les pleins pouvoirs sur le projet, et que le réalisateur ne souhaitait pas travailler avec lui, et encore moins le créditer. Bien évidemment, Madame Golan n'a guère apprécié la situation. Il a donc poursuivi la Carol Coe en justice. Et là, tenez-vous bien, car cette plainte va être la première étape de tout un imbroglio juridique qui va durer des années. Mais juste avant que je vous relate cette bataille, je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière, afin que vous puissiez comprendre un peu mieux les raisons de cette tourmente judiciaire. Je reviens donc au moment où Madame Golan quitte la Canon pour fonder sa nouvelle boîte de production, la 21st Century. À ne pas confondre avec la 20th Century Fox, pour le détail. Il emporte donc avec lui le scénario de Spider-Man, avec la ferme intention de le produire enfin. Pour conserver les droits du super-héros auprès de Marvel, Golan avait tout de suite mis en chantier un projet de film sous la houlette de Stephen Erek, le réalisateur qui s'était fait connaître avec Bill & Ted, avec Keanu Reeves. Le problème, c'est que Golan n'avait pas les fonds pour le produire. Il a donc décidé de céder une partie des droits à d'autres studios. C'est ainsi qu'à travers sa filiale Columbia TriStar, Sony a acquis les droits télévisuels et d'exploitation vidéo, et de son côté, Viacom, via la Paramount, obtient les droits d'exploitation à l'international. Malheureusement, pour Madame Golan, même s'il arrive à négocier avec Marvel une rallonge de temps pour mettre en chantier son film, la 21st Century fait faillite en 91, ce qui a permis à la Carol Coe donc de racheter les droits et de lancer la fameuse adaptation que devait réaliser James Cameron. Bon, maintenant c'est là que tout se complique. En 94, Madame donc attaque la Carol Coe. La Carol Coe, de son côté, attaque Viacom et Columbia TriStar pour réunir à nouveau la totalité des droits d'exploitation de personnages qui étaient jusque-là divisés en plusieurs parties. Et Viacom et Columbia répliquent de leur côté et attaquent la Carol Coe et la 21st Century en retour. Et là, c'est que le début de l'enlisement juridique. Alors, petite parenthèse, en 95, alors que la bataille autour de Spider-Man fait rage, la 20th Century Fox, qui venait de signer un contrat avec James Cameron, avait tenté, elle aussi, d'acquérir les droits pour l'adaptation de Spider-Man. Surtout que maintenant, elle avait James Cameron sous contrat. Donc, elle a proposé 50 millions de dollars à la Carol Coe. Mais celle-ci a refusé de vendre, prétextant qu'elle avait déjà dépensé 11 millions de dollars pour développer son film. Malheureusement, pour la Carol Coe, en 96, suite à deux revers que sont Showgirls de Paul Verhoeven et L'île aux pirates de Rainier Lynn avec Gina Davis, la boîte de production fait faillite, alors que James Cameron était enfin libre de réaliser Spider-Man après la production de True Lies. La disparition de la Carol Coe ne met pas un terme à ses poursuites judiciaires, bien au contraire. Avec cette faillite, Marvel se lance dans une grande bataille juridique pour récupérer les droits de son personnage. Mais la MGM, qui possède déjà la Canon et qui vient d'acquérir la Carol Coe et la 21st Century, contre-attaque. Elle considère qu'elle possède les droits de Spider-Man en raison du rachat de ses deux studios. Et là, comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça, Sony entre à son tour dans la danse pour réclamer sa part, évidemment. Ce conflit devient tellement âpre et intriqué que l'avocat de la 21st Century a fini par déclarer que presque tous les studios hollywoodiens ont réclamé à un moment donné une part sur les droits du personnage. Évidemment, cette situation a des conséquences pour James Cameron, qui ne peut continuer à développer son film. Pourtant, il possède encore un allié de poids. Pendant toutes ces années, Stan Lee a espéré que le réalisateur de Terminator puisse porter à l'écran cette adaptation. Dans une interview, il avait révélé que James Cameron lui avait dit qu'il voulait déjà faire un film Spider-Man lorsqu'il était adolescent. Stan Lee ajoute même qu'il pense que ce serait horrible si ce n'était pas Jim Cameron derrière la caméra, ne serait-ce parce qu'il a attendu si longtemps. La conclusion de cette affaire arrive en février 99. La Cour de justice américaine finit par rejeter la demande de la MGM, Marvel récupère enfin les droits de son personnage et passe ensuite un accord avec Sony. La suite, vous la connaissez évidemment, c'est Sam Raimi qui va être désigné pour porter à l'écran les aventures de l'araignée. Pourtant, avant de choisir le réalisateur de Evil Dead, Sony avait quand même envisagé de confier le film à James Cameron. Mais celui-ci était déjà passé à autre chose. Lors d'une interview donnée à Première en novembre 98, il disait qu'il souhaitait se consacrer à ses propres créations, comme il l'avait fait auparavant, évidemment à l'exception d'Aliens. Et il ne voulait pas dépendre de la création des autres. Le succès énorme de Titanic et d'Avatar a fini par lui donner raison. Voilà, maintenant vous savez pourquoi James Cameron n'a jamais réalisé le film Spider-Man en dépit de son scénario ambitieux. Je vous remercie d'avoir écouté ce numéro. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcasts et même à le soutenir sur sa page Tipeee. Si tout va bien, pour le prochain épisode, on devrait changer d'ambiance. Et pour vous mettre déjà l'eau à la bouche, il me suffit de donner deux noms. John Carpenter et Shane Black. Et oui, je devrais parler de Shadow Company. Une histoire où des vétérans de la guerre du Vietnam reviennent d'entre les morts. En attendant de se retrouver, portez-vous bien et prenez soin de vous.